cette parole de prophète. Je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître. Pas vrai, maître?
Je suis un marginal. Anarchiste, faut pas charrier, j'ai du blé, je peux pas dire. Et marginal, mais...
Janine Marc-Peset, Michel-Alain Barjou, Alain Poulange, Serge Gainsbourg et Léo Ferré.
Ni Dieu, ni maître.
Tout ce qui est mal, c'est bon.
Charles Albert Ferré, né à Monaco le 24 août 1916, jour de la Saint-Barthélemy, y a-t-il un hasard? Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, 24 août 1994, Léo Ferré aurait eu 78 ans.
Il y en a pas sur 100, et pourtant ils existent. La plupart espagnols, allez savoir pourquoi, sont toujours debout les anarchistes.
Hommage à Léo Ferré donc aujourd'hui, Léo Ferré dont l'enfance s'est passée dans la principauté, une enfance à part, déjà dans l'imaginaire, j'allais des fois la nuit dans l'autre imaginer, et des fois ça n'était qu'imager. France Culture, nuit de la Saint-Sylvestre, 87-88.
Quand il faisait des trams, bon, la café c'était le frein, oui le frein c'était à droite, et l'autre le truc, il y avait un escabeau avec un trou au milieu pour pouvoir le prendre. Je mettais une espèce de truc qui servait à lever le rideau de chez mon oncle, là. Alors je faisais le tram, en faisant ton, 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 et puis alors il y avait le frein. Alors j'imaginais la descente, la montée, l'arrêter. J'arrêtais le truc quand il fallait et tout ça. Et des fois je m'arrêtais parce que il fallait changer de tram. Alors moi j'étais là, je faisais tu, et puis alors je prenais le truc, je prenais les billets, j'avais donné les billets aux gens, à ce moment-là je changeais. Je devenais le type qui donnait les billets et qui prenait les sous pour faire voyager les gens, quoi.
En fait, il y avait cette capacité de transformer la réalité, de la dépasser, puis d'aller...
Oui, absolument. Oui, mais ça, je ne me rendais pas compte. Mais c'est la première fois qu'on me dit ça, d'ailleurs. T'as raison, j'ai jamais pensé à ça, c'est vrai.
Tu étais un peu d'ailleurs, quoi.
Oui.
Avec mon pipeau et ma besace sur le dos.
Étonnant exercice de style qui date de 1953 et qui s'intitule Les Grandes Vacances. Après 14 ans de gestation, Léo Ferré publie Benoît Misère, un roman qui n'est rien d'autre qu'une autobiographie à peine déguisée. Réédité en 89 par l'auteur dans sa propre maison au Gufo del Tramonto, sa sortie initiale eut lieu chez Robert Laffont en 1970. Léo Ferré, à cette occasion, au micro d'Émile Noël.
Je crois que la raison au fond, qui a été la raison inconsciente pour moi au début, qui est devenue la raison pour laquelle j'ai fait éditer, j'ai laissé éditer ce livre, c'est que on ne connaît pas l'enfant. On s'occupe beaucoup des enfants. On s'occupe des enfants, on s'occupe de leurs études, on s'occupe de leurs rhumes. On s'occupe de les montrer, de dire c'est, j'ai un gosse qui est le plus beau du monde, qui est le plus merveilleux, qui est intelligent. Ou alors on dit ce gosse, il est comme ça, il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il apprenne à se tenir bien à table et tout ça. On s'en occupe. C'est un visage double, n'est-ce pas, de la parenté. Mais en définitive, on ne sait pas qui est-ce. L'enfant, on ne sait pas, on ne connaît pas. Il n'y a que lui qui connaît encore, il ne peut pas s'exprimer. J'ai voulu écrire ce livre, je crois, en définitive, pour mettre à nu la solitude d'un enfant. Et la solitude d'un enfant n'est pas partageable. Surtout d'un enfant artiste. Évidemment, il s'agit de moi. Je raconte à travers des choses comme ça, revues et inventées. C'est mon enfance à moi, n'est-ce pas? C'était moi, le petit Benoît. On se connaît un peu, quoi, heureusement. C'est donc un enfant artiste, donc un enfant seul. Et il faudrait ouvrir la tête des enfants pour voir ce qu'ils ont dedans, et puis après agir en conséquence.
Et cette misère est peut-être plus psychique que matérielle.
Sûrement, d'abord, jamais matérielle, parce que moi j'ai jamais été misérable, jamais du tout, non. Et je trouve d'abord misère, c'est un joli mot. Et puis c'est la misère, comme vous dites, psychique, quoi, qui est une misère abominable. La misère physique, on s'en sort toujours. Vous savez, dans nos pays, on ne meurt pas de faim, c'est pas vrai. On peut toujours travailler le minimum par jour pour acheter un bout de pain pour manger. Hein. Non, la misère intellectuelle est beaucoup plus tragique que l'autre. D'ailleurs, les mauvais souvenirs sont toujours des souvenirs psychiques. On ne se rappelle pas des mauvais moments matériels. Je veux dire des mauvais moments matériels. Je ne veux pas dire quand on a souffert par le corps, c'est pas pareil. Mais la faim, la soif, tout ça. Du moment qu'on a mangé, qu'on a bu, après, on se rappelle les bons moments, jamais, jamais les mauvais, ce plan-là. Mais la misère psychique, c'est toujours présent. Là.
C'est déjà la solitude.
C'est déjà la solitude. Et puis alors, chez l'artiste, l'art, c'est une excroissance de la solitude, c'est une espèce de cancer. Comme l'artiste est seul, il donne quelque chose, il donne son môme, quoi, à d'autres, quoi, pour provoquer une rencontre, quoi, un regard, tout ça. Même quelque chose qui ne... Quelqu'un qui ne voit pas, ou c'est le meilleur public, c'est celui qu'on ne verra jamais.
Sur la scène, il y a le silence, tout habillé de noir. Sur la scène, il y a une pute avec des yeux absents. Sur la scène, il y a des mains qui battent des sourires. Dans la salle, il y a le public, c'est notre théâtre à nous.
Et si le meilleur public est celui qu'on ne verra jamais, sur la scène en effet et dans la salle également, il y a des mains qui battent, des sourires. Et pour Ferré, les sourires étaient radieux, ils étaient éclatants et les mains battaient fort, très fort.
Je suis dans la cité, moi, c'est sûr, évidemment. Il n'y a pas de problème, vous savez, pour moi.
Oui, vous êtes dans la cité, vous avez envie de vivre seul.
Oui.
C'est un conflit, ça.
Ben, c'est le malentendu. Voilà. Et quand je suis seul, quelque part, je ne veux plus sortir. Je deviens timide et j'ai plus envie, j'ai honte. Vous savez, quand il y a longtemps que je ne monte plus sur une scène, quand je dis longtemps, ça peut être au maximum un mois et demi, je m'y remets difficilement. J'aime pas me montrer. Puis après, le métier revient. Alors, voilà. Le métier, ça favorise bien les choses.
Est-ce que les applaudissements ou l'assentiment du public, c'est quelque chose qui vous encourage ou est-ce que vous pouvez vous en passer très bien?
Là, c'est difficile de répondre. Vous comprenez que quand je fais ce métier, que les gens applaudissent, je les sens contents et j'aurai une mauvaise grâce. Vous dire, moi, l'assentiment, je m'en fous, c'est pas vrai. Hein? Et puis, nous faisons un métier particulier. C'est-à-dire, moi, je suis 2 heures sur une scène, mais toutes les 3 minutes, les gens applaudissent. Ce qui se passe jamais au théâtre. Ou alors, quand on applaudit une réplique dans une pièce, pas moi, de boulevard, ou bien une pièce politisée, quoi. Où les gens sont contents de se délivrer de quelque chose. Ils pensent comme ça, mais nous, on pense comme lui, alors on applaudit. Mais Donc c'est particulier. Et les applaudissements font partie de vraiment intégrante du spectacle, puisqu'on applaudit. Moi j'ai 25 ou 28 séquences, chansons. Et bien, chaque fois on applaudit. On applaudit moins, on applaudit plus, ça dépend évidemment. Et je ne peux pas dire que je peux me passer des applaudissements. Vous savez, si demain je devais faire un tour de chant du début à la fin, j'imaginais un jour ça, et pouvoir même le provoquer, en faisant des enchaînements, vous savez, sans applaudissements, ça me changerait, forcément, parce que, évidemment, il se passerait quelque chose de nouveau. Mais pour le moment, si des gens n'applaudissent pas après chanter une chanson, ça veut dire qu'il vaut mieux que je m'en aille, c'est sûr.
Je sais pas ce que c'est que le trac. J'ai le trac, je sais pas. J'ai pas le trac du tout, j'ai toujours le site, et puis... quand j'ai des choses nouvelles, que je n'ai pas chanté depuis longtemps, ou des choses en nouvelles, j'ai peur de me tromper, là. Mais c'est pas le trac, ça.
Mon père me disait un jour, dans la rue, il me dit, tu vois, t'entends, il me faisait voir, tu vois, ce type là-bas, là, c'est un type qui est formidable, il donne sa chemise. Et alors... Depuis, j'ai appris qu'il y a des chanteurs qui donnent leur chemise, alors pour ne pas être en reste, je vais donner ma chemise. Mais il est rouge. Oui, mais si vous saviez ce qu'elle est. De la toile. De la toile. Mais c'est une voile. De la corde. Oui, mais taillé dans la miséricorde. De la soie, je fais des vers, mais pas de soie. Du fil, du satin, nylon, mais non. Cette chemise-là, c'est bien mieux que cela. Écoutez bien, cette chemise-là.
C'est de la peau.
L'affaire tendre.
La chemise rouge, chanson extraite de l'Opéra du Pauvre. Ferré est un artiste maniant notre langue comme personne et sans besoin de personne pour le lui imposer. Sa carrière est immense, mais ses apparitions au-delà des frontières n'ont pas été fréquentes. Toujours lors de cette nuit de réveillon 87-88 sur France Culture, à Marc Legras et à Louis-Jean Calvet, Ferré raconta ses récentes impressions de tournée au Japon.
Et j'ai trouvé le Japon, qui est un pays extraordinaire, avec les Japonais qui sont des gens d'une politesse incroyable. On ne rencontre pas des gens comme ça ici chez nous. Ils étaient au théâtre, ça marchait formidablement. Il n'y avait pas beaucoup qui parlaient français, mais ils avaient tous des traductions de mon tour de chant. Et je trouve que là-bas, ce qui m'a étonné, c'est que le Japon est plus petit que l'Italie, n'est-ce pas? Et alors, les voyages, on a fait 300 km en train pour aller dans une ville, je ne sais plus comment elle s'appelle, dans le nord. On trouve jamais... Il n'y a que des maisons, quoi. Partout. T'as jamais un endroit, comme en France, tu passes... Tu vas en Beauce, en Brie, tu vois, le blé, tout ça. Là-bas, non, quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a 150 millions d'habitants pour un petit pays comme ça, quoi. Dans l'intelligence, ils ont la politesse et la sensibilité, hein, c'est ça. Ah oui, ça, j'étais vraiment étonné, hein. Et agréablement, comme ça, évidemment. Quoi.
Les 87, donc le Japon, les poètes avec lesquels tu tournes toujours.
Oui.
Et puis, pendant l'été, La Rochelle.
Oui, La Rochelle. Oui.
Avec Foulquier, La Fête à Ferré.
Oui.
Avec des tas de gens autour de toi, Nicole Croisy, Catherine Ribeiro.
Oui, et puis alors, un peu. Oui, j'ai trouvé ça extraordinaire. On a, avec un orchestre avec qui j'ai bien répété, des chœurs aussi. Ça n'a jamais tout à fait très au point parce que. Il faudrait toujours plus de répétitions, quoi.
Mais j'ai trouvé que c'était... Et ces gens qui ont chanté pour moi et avec moi ont été extraordinaires. Extraordinaires.
Cadeau de Nicole Croisy et du Québécois Paul Pichet lors de cette fête affairée organisée par Jean-Louis Foulquier le 9 juillet 1987 lors des Francofolies. Alors il y avait Jacques Higelin, Mama Béa, Claude Dubois, Catherine Ribeiro et puis bien sûr Léo Ferré. Et en mai 92, la fête affairée eut lieu à Montauban lors du festival de Montauban et pour l'occasion, Catherine Boulanger, jeune auteur, compositeur, interprète, osa lui offrir ceci.
M'éveiller sous tes doigts, j'aurais aimé, Léo, être une chanson de toi. Lorsque ma vie d'artiste cessera de tourner, s'il se peut qu'on choisisse comment réexister, si on ne part qu'en coulisses, mais que tout n'est pas joué, moi, je dirais, je veux être une chanson de Ferré.
Pour Léo, Catherine Boulanger, résumé sensible et parfait de l'enthousiasme et de l'espoir de plusieurs générations pour Léo.
Je parle beaucoup aux jeunes. Vous savez qu'ils ne sont pas aidés, les jeunes. Pas du tout. On parle beaucoup d'eux, on leur dit, la jeunesse est libérée, tout ça. Les jeunes, ils sont seuls. Et il y a ce fossé qui est entre les jeunes et les vieux. Pour moi, les jeunes, c'est ceux qui n'ont pas encore accédé au boulot, quoi, à leur truc, vous comprenez. Et c'est pour ça que le danger de ces jeunes qui sont seuls, qui ne sont pas aidés, et c'est vrai, on parle beaucoup de malheur dans le coin parce que les gens, quand on les place, ils les gardent bien. Donc les vieux, hein. Et ce fossé qui est entre ces jeunes qui n'ont rien fait, qui vont faire quelque chose dans la vie, et les autres, j'ai peur qu'ils soient trop vite passés comme ça. Et dès qu'ils sont de l'autre côté, ils sont vieux, tout de suite. Et vous savez qu'il y a des jeunes qui vieillissent d'un coup, hein, et qui sont pires que les autres. Peut-être par réaction. C'est un danger. Cela dit, vous savez l'histoire de la drogue. C'est malheureux l'histoire de la drogue. Mais c'est un fait de solitaire, ça. Et de désespoir du type qui était laissé dans le coin. Hein.
Et si Ferré savait parler aux jeunes, il s'était forcé de ne pas tomber dans la démagogie. La preuve, au tribunal des flagrants délires de Claude Villers, écoutez, c'était en novembre 80.
Qu'est-ce que vous voulez faire? Ces gens, ils sont... parfait, ils ont 17 ans, 18 ans. Il y a un type en Belgique un jour qui chantait dans un chapiteau, il est venu derrière, il n'y avait pas de loge, alors j'étais derrière le chapiteau avant d'entrer pour chanter. Et il me dit, alors tu viens chanter dans la rue? J'ai dit non, parce que j'ai pas le droit de chanter dans la rue. J'ai droit de chanter dans la rue, il faut que je demande une autorisation de Camelot, vous êtes au courant. Hein? Bon. Alors il me dit, mais quand même, je dis, je peux pas, je dis, de toute façon, si je dois chanter, il faut que quelqu'un paye, pas cher, mais pour aller dans un spectacle. On paye quand il veut. C'est tout à fait naturel. Il me dit, alors tu es dans le système? J'ai dit oui. Préférence le système solaire, toi aussi. Alors, je lui dis, mais alors toi, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je fais la manche. J'ai dit, petite ordure. Hein? Et quand tu fais la manche, le mec qui passe et qui se prend à ton jeu, qui donne 100 balles comme ça, dans quel système il est, lui? Hein? Vous comprenez?
Oui.
Bon, alors Ce sont des rencontres qui me font dire des choses pareilles. Cela dit, il peut y avoir un punk, comme on dit, un type formidable, évidemment, bien sûr. Vous savez, on assassine que les gens qu'on connaît. Hein.
C'était vraiment un employé modèle, Monsieur William. Toujours exact et toujours plein de zèle, Monsieur William. Il arriva jusqu'à la quarantaine, sans fredaine, sans le moindre petit drame. Mais un beau soir du mois d'août, il faisait si bon, il faisait si doux, que Monsieur William s'en alla flâner droit devant lui, au hasard, et voilà.
Monsieur William,
rencontra une fille bien jeunette, Monsieur William. Il lui paya un bouquet de violettes, Monsieur William. Il l'entraîna à l'hôtel de la pègre, mais un nègre a voulu prendre la femme, Monsieur William, hors de lui. Lui a donné des coups de parapluie. Oui, mais le nègre dans le noir lui a coupé le cou en deux coups de rasoir.
Monsieur William, vous manquez de tenue. Qu'allez-vous faire dans la troisième avenue?
Il a senti que cette irrémédiable, Monsieur William. Il entendit déjà crier le diable,
Monsieur William.
Aux alentours, il n'y avait personne qu'un trombone, chantant la peine des âmes, un aveugle en gémissant, sans le savoir à marcher dans le sang, puis dans la nuit a disparu, c'était peut-être le destin qui marchait dans les rues.
Monsieur William, vous manquez de tenue, vous êtes mort dans la 13e avenue.
Et oui, Serge Gainsbourg chantant Monsieur William, c'était le 10 mars 68 lors de l'émission de télévision Dim Dam Dom, et c'est un document Polygramme vidéo. Gainsbourg chantant Cosimon Ferré, c'est exceptionnel, mais plus exceptionnel encore, sa version à elle.
J'ai connu cette femme il y a quelques années. C'est une fille très simple et que j'ai beaucoup aimée. Comme ça, quoi, c'était la femme de Gainsbourg. Il voulait m'entendre tous les soirs dans un cabaret de la rue, je ne sais plus comment ça s'appelle, celui des Saint-Père. Et quand j'arrivais, Gainsbourg me faisait signe avec les oreilles, comme ça, parce que je chantais la chanson de Pépé. Et fantastique. Ça m'a beaucoup ému, cette interprétation. Quand je dis interprétation, c'est un mot très employé. Je trouve que j'ai l'impression d'être seul, comme ça, loin de tout, et d'écouter une libellule qui me chante à moi. C'est une réussite, ça me fait très plaisir d'avoir écouté cette chanson chantée par Jane. Merci.
Quand j'ai commencé de répéter ce show, il y a à peu près deux mois et demi maintenant, j'étais dans ma chambre seule et j'ai écouté une cassette pour chercher une chanson. Et puis, j'ai entendu une autre. Cette autre, je ne la connaissais pas. Et je l'ai trouvée si belle, je voulais vous la chanter. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Serment maquillé qui s'en va faire sa nuit.